Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Ninar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Antennes aériennes et magnétiques électroculture, agriculture énergétique » est un ouvrage pratique et historique de Loïc Edgeberry consacré à des dispositifs que leur auteur associe à l'électroculture. Publié en français, ce livre examine l'usage d'antennes métalliques installées dans le sol ou au-dessus des cultures, ainsi que des configurations utilisant des aimants. Son objectif est de présenter les origines de ces pratiques, leurs formes matérielles et leurs usages envisagés au jardin, au verger, dans les champs ou pour la dynamisation de l'eau. L'auteur inscrit son propos dans une filiation qui évoque notamment l'abbé Berthollon, Jean Nollet et Justin-Étienne Christophelot. Il relie ces dispositifs à une lecture énergétique et électromagnétique du vivant, en visant la vigueur et la résistance des végétaux. Le livre semble également aborder des instruments destinés à observer sol, eau et plantes. Ces propositions relèvent toutefois d'un domaine controversé. Les effets agronomiques attribués à l'électroculture ne font pas l'objet d'un consensus scientifique et solide. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une généalogie de l'électroculture entre expérimentation ancienne et reprise contemporaine. Le livre place les antennes d'électroculture dans une histoire plus longue que les débats actuels sur le jardinage énergétique. La présentation éditoriale renvoie à l'image d'une acupuncture de la Terre et cite des chercheurs ou expérimentateurs associés aux premiers travaux sur l'électricité atmosphérique et les cultures. Cette généalogie est importante parce qu'elle montre que l'idée de modifier l'environnement électrique des plantes ne constitue pas une invention récente. Les paratonnerres, les tiges métalliques et les réseaux conducteurs ont alimenté, selon les époques, des hypothèses sur les relations entre atmosphère, sol et végétation. L'intérêt du livre est de faire de ce patrimoine technique le point de départ d'applications contemporaines plutôt que de traiter l'électroculture comme une théorie purement abstraite. Cette mise en contexte demande cependant une distinction méthodique. L'existence de récits historiques et d'essais passés ne démontre pas, à elle seule, l'efficacité reproductible d'une méthode. Des observations anciennes peuvent être influencées par les conditions météo, la fertilité, l'irrigation, les variétés ou l'absence de parcelles témoins. Le lecteur y trouvera donc une cartographie de traditions et de dispositifs, utile pour comprendre l'imaginaire et les pratiques de l'électroculture, mais à confronter aux méthodes agronomiques d'évaluation actuelles. Deuxièmement, les antennes aériennes comme interface proposée entre atmosphère, sol et végétaux. Le cœur pratique de l'ouvrage porte sur les antennes aériennes, décrites comme des structures métalliques susceptibles de capter ou de canaliser des phénomènes électriques et atmosphériques. L'analogie avec l'arbre, évoquée dans la présentation, donne la logique générale. Une structure verticale relierait symboliquement et matériellement l'air au sol, afin de stimuler des échanges jugés favorables aux vivants. Le livre s'intéresse ainsi à la forme des installations, à leur implantation et à leur adaptation à différents espaces cultivés. Cette orientation distingue l'antenne d'un simple apport d'engrais ou d'un traitement phytosanitaire. Le dispositif est présenté comme passif, durable et fonctionnant, sans alimentation énergétique conventionnelle. Une fois mis en place, sur le plan physique, il est raisonnable de dire que les objets conducteurs exposés à l'air et reliés au terrain interagissent avec leur environnement électrique. En revanche, passer de cette interaction à une amélioration de la croissance, de la tolérance à la sécheresse ou de la santé végétale exige des mesures comparatives rigoureuses. Le livre peut donc être lu comme un guide de conception et d'expérimentation autonome. Une démarche prudente consisterait à documenter le sol, les conditions sculpturales, les rendements et la santé des plantes, puis à comparer des zones équipées et non équipées sur plusieurs saisons. Troisièmement, antennes magnétiques et aimants des combinaisons au centre de la démarche. En complément des antennes aériennes, l'ouvrage annonce une exploration des aimants et des antennes magnétiques, ainsi que de différentes combinaisons que le lecteur peut s'approprier. Cette seconde famille de dispositifs élargit le sujet. Il ne s'agit plus seulement de structures élevées destinées à interagir avec l'atmosphère, mais aussi de l'emploi local de matériaux magnétiques dans un système de culture ou de traitement de l'eau. La présence de cette partie est significative car elle traduit une conception large de l'électroculture, où les phénomènes électriques, magnétiques, minéraux et biologiques sont pensés ensemble. Le livre semble privilégier des montages concrets et modulables plutôt qu'un appareil unique présenté comme universel. Pour l'utilisateur, cette approche implique de bien séparer ce qui relève de la réalisation matérielle, souvent accessible, et ce qui relève de l'interprétation des résultats, nettement plus incertaine. Les champs magnétiques existent et peuvent être mesurés, mais les affirmations sur leurs effets agricoles doivent être évaluées avec des protocoles contrôlés. La qualité d'un essai dépend notamment du témoin, de la répétition, de la durée et de critères observables tels que germination, biomasse, maladie, consommation d'eau ou production. Cette exigence n'annule pas l'intérêt exploratoire des configurations proposées. Elle évite de confondre un montage plausible avec une efficacité établie. Quatrièmement, du potager à la vigne, une ambition d'application à plusieurs milieux cultivés. Le périmètre annoncé couvre le potager, le champ, le verger, la vigne et la dynamisation de l'eau. Cette diversité révèle que l'ouvrage ne réduit pas l'électroculture à un bricolage de jardin domestique. Il cherche plutôt à envisager comment une même famille de principes pourrait être transposée à des surfaces, des plantes pérennes et des systèmes de production différents. Une telle ambition soulève des questions pratiques précises. Une antenne implantée dans un potager ne se transpose pas automatiquement dans une parcelle agricole l'échelle. La sécurité, l'exposition au vent, la proximité de réseaux électriques, la mécanisation et la variabilité des sols modifient profondément les conditions d'usage. De même, les critères de réussite diffèrent entre une culture annuelle, un verger et une vigne. L'intérêt analytique du livre tient à cette ouverture vers des contextes agricoles variés et à son attention aux installations permanentes ou semi-permanentes. Mais le lecteur doit adapter toute proposition à son site et respecter les règles de sécurité, en particulier face aux risques de foudre liés aux structures métalliques et verticales. Les bénéfices attendus ne doivent pas conduire à négliger les fondamentaux agronomiques structure du sol. Matière organique, couverture végétale, choix variétal, irrigation et prévention des maladies restent les principaux leviers établis de la santé des cultures. En dernier lieu, bioélectronique de Louis-Claude Vincent et recherche d'indicateurs mesurables. La présentation du livre annonce un parallèle avec la bioélectronique de Louis-Claude Vincent et l'examen d'outils ou d'appareils de mesure appliqués au sol, aux plantes, aux cultures et aux effets supposés des systèmes. Cette dimension donne au livre une orientation plus instrumentale que ne le laisserait penser le seul vocabulaire énergétique. Elle signale le souhait de passer de l'intuition ou de l'observation visuelle à des indicateurs. Dans une démarche expérimentale, cette intention est pertinente, mesurer avant et après une installation, conserver les mêmes conditions de culture et noter les variations aide à éviter les conclusions hâtives. Il faut néanmoins préciser le statut des cadres mobilisés. La bioélectronique de Vincent et ses usages interprétatifs ne constituent pas une référence validée de manière générale pour établir l'efficacité de pratiques agronomiques. Les appareils ne valent pas par leur présence, mais par la fiabilité de ce qu'ils mesurent, l'étalonnage, le protocole et la possibilité de reproduire les résultats. Les données les plus utiles pour un cultivateur restent celles qui relient directement un dispositif à des variables agronomiques observables, humidité et température du sol, conductivité, pH, croissance, symptômes sanitaires et récolte. Ce thème résume une tension féconde du livre proposer une vision énergétique du vivant tout en invitant, au moins dans son intention, à rendre les effets discutables à partir d'observations concrètes. En conclusion, cet ouvrage s'adresse principalement aux jardiniers, permaculteurs, viticulteurs ou cultivateurs curieux de l'histoire et des pratiques contemporaines de l'électroculture. Il peut aussi intéresser les lecteurs qui souhaitent fabriquer ou comprendre des antennes aériennes et magnétiques sans se limiter à une approche théorique de l'agriculture énergétique. Son apport pratique réside dans la mise en relation de dispositifs matériels, de terrains d'application variés et d'une invitation à observer les effets sur l'eau, le sol et les végétaux. Son apport intellectuel est de restituer une tradition d'expérimentation reliant électricité atmosphérique, conducteur et croissance des plantes, tradition souvent absente des manuels agronomiques classiques. Par rapport à des livres généralistes sur le jardin naturel, il se distingue par son focus étroit sur l'antenne, les aimants et les montages électroculturels, ainsi que par le rapprochement annoncé avec des outils de mesure et la bioélectronique. Cette spécialisation en fait davantage un ouvrage d'exploration technique qu'un guide complet de conduite culturelle. Il convient de le lire avec intérêt, mais aussi avec discernement. Les mécanismes et bénéfices biologiques avancés dans le champ de l'électroculture restent insuffisamment confirmés par des preuves scientifiques consensuelles. Le meilleur usage du livre est donc expérimental, testé à petite échelle, maintenir une zone témoin, consigner les observations et ne pas substituer ces installations aux pratiques agronomiques éprouvées ni aux précautions de sécurité liées aux structures métalliques extérieures. Si vous souhaitez soutenir Loïc Edgebury, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.